VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, 13h à Kigali au Rwanda. Donald Trump a apporté hier son soutien à une réforme du système d'immigration légale aux États-Unis destinée à drastiquement réduire le nombre d'immigrés peu qualifiés et à baser l'attribution du permis de résidence au mérite. La proposition de loi concoctée par les sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue a vocation à donner la priorité aux personnes parlant l'anglais et à plafonner à 50 000 par an le nombre de réfugiés obtenant l'autorisation de résider aux États-Unis. Bakary Tandja, défenseur des droits des immigrants aux États-Unis, dénonce un projet discriminatoire et appelle à une réforme consensuelle.
Compte tenu de la masse des immigrants présents ici et la tradition de l'immigration des États-Unis, bon, c'est très important d'ouvrir un débat, avoir un débat sain pour tenir compte de tous les aspects. C'est un problème qui est extrêmement complexe. Deux individus appartenant à un même parti ne peuvent pas se réunir et discuter et proposer quelque chose qui va affecter des millions et des millions de personnes. Ce n'est pas un débat sain. Le débat doit être ouvert. Tous les partis et la société civile, les experts en matière d'immigration doivent participer au débat pour arriver à quelque chose de viable qui respecte certains principes moraux et certaines valeurs humaines.
Bakary Tandja, défenseur des droits des immigrants aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a nommé mercredi la femme d'affaires californienne Jamie McCord au poste d'ambassadrice des États-Unis en France, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Jamie McCord, âgée de 63 ans, est présentée sur le site internet de son entreprise comme une entrepreneuse développeuse de projets immobiliers. Sa nomination doit encore être approuvée par le Sénat où les Républicains disposent d'une courte majorité. La Corée du Nord devrait se heurter à un mur de réprobation diplomatique au sujet de ses programmes nucléaires et balistiques lors d'un forum sur la sécurité qui s'ouvre ce week-end à Manille. Les ministres des Affaires étrangères des principales puissances, parties prenantes aux efforts contre les ambitions nucléaires du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, seront présents dans la capitale philippine. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson cherchera à Manille à renforcer les pressions diplomatiques sur Pyongyang. D'après l'un de ses hauts collaborateurs, Washington cherche à obtenir une nouvelle volée de sanctions de l'ONU contre Pyongyang. Le second tir nord-coréen de missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, survenu la semaine dernière, renforce les craintes de la communauté internationale sur les capacités de frappe nord-coréenne.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Les Mauritaniens votent samedi pour un référendum constitutionnel convoqué par le président Mohamed Ould Abdelaziz qui prévoit la suppression de plusieurs institutions, y compris le Sénat, une consultation jugée illégale par l'opposition radicale. La campagne émaillée de tensions, voire de violence lors de rassemblements de l'opposition radicale, engagée dans un boycott actif du scrutin afin de réduire au minimum la participation, s'achève aujourd'hui avec notamment un ultime meeting du chef de l'État qui a promis des révélations. En raison de son boycott, l'opposition radicale est exclue du temps d'antenne de la campagne officielle, à l'exception d'un parti, la Convergence démocratique nationale, CDN. Au Mali, les banques et assurances ont cessé de travailler hier et leurs employés ont participé à une assemblée générale extraordinaire de leur syndicat qui va déposer un préavis de grève lundi prochain. Les syndicalistes maliens estiment qu'il y a une violation flagrante des libertés syndicales. Amadoune Ba, secrétaire administratif au SINABEF, le syndicat des banques et établissements financiers du Mali.
Le lundi, nous déposons un préavis de grève, demandant le départ sans condition du DG de NCA et de la DGA de NCA de la République du Mali. Parce que c'est une insulte même au Mali d'avoir des gens qui viennent chez nous et qui ne respectent pas nos textes. Toutes les conventions auxquelles le Mali est partie prenante. Nous allons demander la réintégration immédiate, incessamment, du camarade secrétaire général qui a été licencié. Et nous allons demander le départ sans condition du directeur régional du travail, de Ag Mohamed, qui est la cause même de cette crise.
Amadoune Ba du SINABEF, le syndicat des banques et établissements financiers du Mali. Les Rwandais se rendront aux urnes demain, vendredi, pour élire leur prochain président. C'est mercredi que s'est terminée la campagne électorale avec un grand rassemblement du parti au pouvoir à 30 km de Kigali, la capitale. À cette occasion, Paul Kagame, le président sortant et grand favori de cette élection, s'est attaqué à la communauté internationale. Reportage de notre envoyé spécial au Rwanda, Charlie Kasereka.
Trois candidatures ont été retenues pour cette élection, mais seules les couleurs du parti politique FPR du président sortant Paul Kagame sont très visibles sur toute l'étendue du pays. Les deux candidats qui affronteront Paul Kagame pour ces élections sont Franck Habineza, transfuge du parti au pouvoir FPR, et il est le président du parti démocratique vert PDV. L'autre est Philippe Paimana, 46 ans, journaliste, était quasi inconnu au Rwanda, qu'il a quitté en 1994 pour la RDC lors du génocide ici au Rwanda. Ce deux challengers à Paul Kagame, faute des moyens selon eux, n'ont pas eu à faire une bonne campagne ici au pays des mille collines. La majorité de la population ne connaît même pas les noms de ces deux candidats qui vont s'affronter à Paul Kagame, l'homme fort de ce pays de 12 millions d'habitants. Par peur ou conviction, voteront-ils pour Paul Kagame? Certains restent convaincus qu'il est l'homme de la situation ici au pays. C'est le cas de cette habitante de Kigali, ancienne réfugiée en RDC et qui est de retour depuis maintenant un moment.
Je suis commerçante. Mon président m'a montré l'utilité des banques. Je vais voter pour Kagame parce qu'il nous a donné les mutuelles de santé qui nous aident beaucoup, nous les Rwandais. Et il a mis la parité entre hommes et femmes dans notre pays.
Pour cette dernière journée de la campagne électorale, devant une foule immense de plus de 50 000 personnes, le président Paul Kagame s'est adressé plus à la communauté internationale qui les qualifie de dictateurs.
Ils disent que ce sont eux qui nous apprennent la démocratie, mais pour ceux qui le savent, tout récemment, il y a eu des élections quelque part et on a raconté qu'il y a eu piratage informatique et que par conséquent, ils ont eu un dirigeant qu'ils ne voulaient pas. Et d'autres racontent que Kigali, la capitale du Rwanda et les villes urbaines, sont propres, mais que cette propreté n'est pas une démocratie, mais plutôt une dictature.
Paul Kagame, pour la troisième fois comme candidat président, en 2010, il avait remporté les élections avec 93% des voix, chose qui pourrait se reproduire ce vendredi 4 août, après une campagne électorale de 15 jours. Charlie Kasereka depuis Kigali au Rwanda pour VOA Afrique.
Le Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir, a obtenu la majorité absolue avec 90 des 151 sièges de la future Assemblée nationale, selon les résultats officiels du second tour des élections législatives publiées hier soir. Les résultats du second tour, qui a eu lieu donc le 30 juillet, ont été communiqués dans la nuit à la télévision publique par le ministre de l'Intérieur lui-même, Raymond Zéphirin Mboulou. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, formation d'opposition et l'Union démocrate et humaniste de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé au deuxième rang lors de l'élection présidentielle de 2016, ont obtenu chacune 8 députés. Le ministre de l'Intérieur n'a fourni aucun chiffre sur le taux de participation.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une trêve dans la province de Homs, dans le centre de la Syrie, est entrée en vigueur ce jeudi à 9 GMT après un accord entre l'armée russe et les rebelles syriens sur la création d'une troisième zone de désescalade en Syrie, conformément à un accord négocié au Caire, fin juillet entre militaires russes et rebelles syriens. Les groupes de l'opposition modérée, les détachements des forces gouvernementales vont complètement cesser le feu dans cette zone, dans cette troisième zone de désescalade située au nord de la ville de Homs, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, cité par les agences. Et puis l'Iran a dénoncé aujourd'hui les nouvelles sanctions américaines comme une violation de l'accord nucléaire et menacé les États-Unis de mesures de rétorsion le jour de la prise de fonction du président Hassan Rouhani, qui entame sous pression son second mandat. Lors d'une cérémonie officielle, le guide suprême Ali Khamenei a approuvé l'élection en main de M. Rouhani, étape formelle et nécessaire pour le début du second et dernier mandat du président modéré, qui prêtera serment samedi devant le Parlement. Jean-Roger Bion, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.